Il est 8h sur France Culture, le journal Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Un ministre et un préfet de police auditionnés ce lundi à l'Assemblée nationale. Un président qui se cache pour l'instant derrière son entourage. L'affaire Benalla secoue l'exécutif alors qu'hier soir, 5 personnes ont été mises en examen. Accusées notamment de violences en réunion, nous y reviendrons.
À quoi ressemblera l'assurance chômage de demain? On commençait à l'évoquer avec la ministre du Travail. Un projet de loi doit revenir à l'Assemblée ce lundi, mais une renégociation est prévue dès la rentrée.
Dans cette édition encore, nous irons en Israël. Le pays a évacué ce week-end plus de 400 casques blancs de Syrie.
L'ultranationaliste Steve Bannon veut monter une fondation politique à Bruxelles, en ligne de mire de l'américain, les élections européennes de l'an prochain.
Et puis, où en est la protection contre le sida dans le monde? Une conférence mondiale s'ouvre aujourd'hui à Amsterdam. Nous ferons le point sur cette épidémie en fin de journal. L'euphorie de la victoire en Coupe du Monde de football il y a 8 jours tout juste est si vite oubliée. Semaine de tous les dangers pour l'exécutif, empêtré dans l'affaire Benalla, du nom de cet ancien collaborateur de l'Élysée accusé d'avoir violenté 2 manifestants lors d'un rassemblement le 1er mai dernier. Accusé aussi d'avoir arboré un casque et un brassard police. Alexandre Benalla a été mis en examen pour ces faits hier soir, tout comme son comparse de La République En Marche, Vincent Crase, ainsi que 3 policiers qui lui avaient fourni des images du rassemblement. La question est maintenant de savoir qui, au sommet de l'État, savait et n'a rien fait. Ce matin, Gérard Collomb est auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Clara.
Le ministre de l'Intérieur devra répondre à une série de questions sensibles et il pourrait se retrouver en difficulté.
Oui, Gérard Collomb pourrait se retrouver en difficulté sur plusieurs points. Déjà, dans un premier temps, il avait affirmé ne pas connaître Alexandre Benalla et donc ne pas être au courant avant qu'on apprenne qu'il aurait été alerté dès le lendemain des faits, le 2 mai, et qu'il se serait assuré qu'il y avait bien eu sanction du collaborateur d'Emmanuel Macron avant de passer à autre chose. Ensuite, les députés vont le cuisiner sur les rapports qui s'étaient instaurés entre Alexandre Benalla et les policiers. Comment se fait-il qu'il avait pris l'ascendant alors que lui n'était pas policier? Comment se fait-il qu'on a petit à petit accepté qu'il agisse comme si c'était lui le chef en charge de la sécurité du président? Et ça, alors qu'il y a une cellule tout spécialement dédiée et qui dépend du ministère de l'Intérieur. Enfin, surtout, les parlementaires vont chercher à savoir comment il se fait que lui, Gérard Collomb, au sommet de la hiérarchie policière, n'ait pas vu ces dysfonctionnements et cette dérive. Et selon le député Charles Amédée de Courson, qui avait participé à la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac, ça ne sera pas de tout repos pour le ministre de l'Intérieur.
Les pouvoirs d'investigation sont assez larges. Les témoins viennent devant la commission et prêtent serment. En d'autres termes, ils prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et s'ils nous mentent, la commission peut demander à saisir le pénal pour les faire sanctionner.
Gérard Collomb sera donc entendu à partir de 10h ce matin. Cet après-midi, ce sera au tour du préfet de police Michel Delpuech.
Alors le président de la République Emmanuel Macron, lui, a laissé entendre de son côté hier soir qu'il prendra la parole publiquement quand il le jugera utile.
Oui, il a déjà dit quelque chose puisque l'Élysée a fait fuiter quelques-uns de ses propos tenus hier lors d'une réunion à huis clos avec notamment le Premier ministre et Christophe Castaner. Ce qu'a fait Benalla est inacceptable, a dit Macron. Il n'est pas question de laisser accréditer l'idée d'une quelconque impunité. Mais ça, ce sont des propos rapportés et les députés, ceux de l'opposition notamment, demandent plus. Éric Coquerel est député de la France Insoumise.
On voit bien que c'est une affaire d'État qui touche le plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire M. Macron, qui doit s'expliquer devant les Français. C'est très certainement une police politique parallèle qui existe, dirigée par l'Élysée, sur plusieurs événements récents. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut qu'il s'explique. Je pense que pour le moins, ça doit être une conférence de presse et non pas un discours formaté et de communication.
Il a des comptes à rendre. Macron lui a dit qu'il s'exprimera en temps et en heure selon cette règle qu'il s'est fixée, ne pas céder à la pression politique et médiatique. Il entend rester, comme il l'a théorisé lui-même, le maître des horloges. Il ne faut pas non plus qu'il se jette comme ça dans la mêlée, il faut qu'il laisse tous ceux qui ont quelque chose à dire s'exprimer avant lui pour qu'on ait tous les éléments du dossier, car vous imaginez si lui devait être mis en porte-à-faux, on aurait là une vraie crise au plus haut sommet de l'État. Seulement, à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'il s'exprime effectivement.
Merci beaucoup Stéphane Robert pour ces précisions ce matin. Ajoutons que ce week-end, les débats à l'Assemblée nationale ont été suspendus. Le temps que cette affaire aille en commission d'enquête. L'examen de la réforme constitutionnelle donc a été remis à plus tard, déprogrammé jusqu'à nouvel ordre. En revanche, a priori, les députés débattront cet après-midi en deuxième lecture du projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. La commission mixte paritaire n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun, notamment à cause d'un nouvel amendement amendement déposé par le gouvernement. Il vise à renégocier de manière anticipée la convention UNEDIC, une renégociation avec les partenaires sociaux, qui pose un certain nombre de questions, Catherine Pétillon.
D'abord, pourquoi un tel changement alors que la loi Avenir Professionnel contient déjà toute une série de mesures sur le chômage, comme l'ouverture de droits à certains indépendants et aux démissionnaires sous conditions? Le gouvernement finalement privilégie la primauté de l'intervention des partenaires sociaux sans rien céder aux objectifs de réforme qu'il entend poursuivre, a justifié devant le Sénat la ministre du Travail. Une nouvelle manière opportune, diront certains, d'offrir une oreille aux organisations patronales et syndicales, après des mois à se plaindre d'être contournées. Difficile pour elle de refuser ces négociations, même si l'agenda et le tempo restent ceux du président. Autre interrogation, quel sera le destin d'une promesse de campagne, celle de lutter contre le recours abusif au CDD en instaurant un bonus-malus, pour dire vite, une modulation du niveau de cotisation sociale en fonction du comportement des entreprises en la matière. L'idée s'est toujours heurtée à la vive opposition du patronat et le nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, ne fait pas exception. Initialement, le projet de loi prévoyait l'instauration d'un bonus-malus par décret, faute d'accord au niveau des branches d'ici la fin de l'année. Désormais, voilà le sujet renvoyé à la négociation, ce qui ne lui a pas réussi jusqu'ici. En outre, dans le discours de l'exécutif, le thème du bonus-malus se voit désormais articulé, voire corrélé à une autre idée, celle que les règles actuelles de l'assurance chômage favoriseraient la précarité durable et qu'il faudrait donc les réformer. D'où cette question, s'achemine-t-on vers un donnant-donnant sur ces deux sujets, avec en toile de fond la volonté du gouvernement de modifier l'équilibre dans les règles en vigueur entre assurance et solidarité.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, invitée des matins d'été de France Culture. Ces questions s'adressent à vous. Pourquoi ne plus se contenter du texte qui a été âprement négocié avec les partenaires sociaux pendant un an et avec le Parlement? Jusqu'où voulez-vous aller?
Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de l'assurance chômage, c'est évidemment... l'assurance chômage, je rappelle, c'est les partenaires sociaux qui définissent les règles de l'indemnisation, donc patronat et syndicat, la durée, les montants de l'indemnisation, sachant que c'est des règles, c'est très compliqué, il y a plein de règles. Mais dans un cadre, ce que prévoit la loi, c'est que le cadre, le document d'orientation peut être donné par l'État. Pourquoi ? Parce que l'État, mais d'abord, assure la dette de l'assurance chômage, les 33 milliards d'euros qui sont garantis par l'État. Et par ailleurs, désormais, la cotisation d'assurance chômage n'est plus payée par le salarié. C'est pour ça qu'il y a un gain de pouvoir d'achat pour tous les salariés, parce que c'est l'État, à travers l'impôt et la CSG, qui le paye. Donc ça fait deux raisons. Et puis chacun rend comptable du succès de la lutte contre le chômage, le gouvernement. Donc c'est normal qu'il y ait un débat, je dirais, entre l'État et puis les partenaires sociaux qui, eux, définissent les règles.
Ce débat a eu lieu, puisqu'il y a eu un projet de loi, négociations.
Il y a un projet de loi, mais nous avons estimé qu'on a un sujet qui est la quantité d'emplois, mais aussi la qualité de l'emploi. J'en viens là. Aujourd'hui, on a depuis une vingtaine d'années une explosion, mais qui grandit encore, de l'emploi, ce qu'on appelle l'emploi précaire, c'est-à-dire CDD et intérim. 87% des emplois, c'est bien les CDI. Sauf que plus de 80% des embauches, c'est des CDD et intérim. Et aujourd'hui, et puis parfois très court, un tiers de ces CDD, c'est moins d'une journée, enfin, ou une journée. C'est-à-dire que les gens, on revient aux journaliers si on continue. Alors, et ça, franchement, comment voulez-vous dans la vie emprunter, avoir un appartement, projeter, imaginer votre vie, si vous êtes condamné à la précarité? Donc on a un sujet de quantité d'emploi, le taux de chômage, on a un sujet de qualité de l'emploi. Et par rapport à ça, nous avons des règles, et on les a examinées avec les partenaires sociaux, qui, d'une part, ne responsabilisent pas les employeurs suffisamment par rapport à ce sujet, et d'autre part, n'incitent pas au retour à l'emploi, parce qu'il y a des gens qui perdent de l'argent s'ils vont retourner travailler. Alors, on ne peut pas leur demander... Enfin, c'est un peu absurde. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une partie de nos concitoyens qui sont à la fois condamnés à la précarité permanente, et qui se sont installés aussi dans une précarité permanente qu'ils ont adaptée. Et donc, je pense qu'on a besoin de favoriser, au moment où la croissance repart, on a des emplois, on a besoin d'avoir plus d'emplois stables. Accessoirement, tous ces sujets-là coûtent 8 milliards d'euros à l'assurance chômage. Hein. C'est-à-dire que tout le monde paye pour maintenir des gens dans la précarité. Moi, je crois que ce n'est pas notre projet de société. Bien sûr, on ne peut pas avoir 100% de CDI. Mais quand on se compare à d'autres pays européens, on est plutôt un des pays qui a le plus de recours à l'emploi précaire. Et de plus en plus et de plus en plus précaires et de plus en plus courts. C'est ça qu'il faut changer. Donc finalement, lorsque le président de la République a réuni les partenaires sociaux, nous, ce qu'on a mis sur la table, c'est que finalement, on leur proposait d'anticiper, la loi dit juste ça, d'anticiper la date de la prochaine rediscussion de la convention qui devait être dans plus de 2 ans pour leur dire, eh ben, on va le faire cette année.
Et donc,
je vais vous dire, la lutte contre le chômage, ça attend pas.
Et donc remettre encore une fois sur la table ces questions. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, merci. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous restez avec nous sur France Culture jusqu'à 8h30.
Oui, on parlera justement flexibilité, contrat court. Mmh. Avant ça, la suite de votre journal, Clara Lecoq-Réal, une opération secrète a été menée ce week-end à la croisée de 3 frontières.
L'armée israélienne a évacué des casques blancs syriens vers la Jordanie. Une mise à l'abri de 422 personnes, des secouristes bénévoles dans les zones rebelles ainsi que leurs familles. Dans un premier temps, le chiffre de 800 évacués avait été avancé, mais si finalement un peu plus de 400 ce matin. Depuis Israël, notre correspondante Marie Semelin nous raconte.
L'opération qualifiée par l'armée israélienne de geste humanitaire exceptionnel a commencé en Syrie où des bus ont acheminé ces casques blancs et leurs familles vers la frontière israélienne. À l'aube dimanche, l'armée les a fait passer en Jordanie voisine, une armée israélienne habituée aux incursions sur le territoire syrien. L'objectif, c'était sauver ces secouristes d'une mort probable. Bachar al-Assad, avec l'aide de Moscou, est en train de prendre aux rebelles les derniers secteurs qu'il contrôle dans les régions de Kounetra et de Deraa, de régions frontalières d'Israël et de la Jordanie. Dans la zone, selon les Nations Unies, plus de 140 000 Syriens ont fui et beaucoup se retrouvent acculés devant cette avancée des forces loyalistes syriennes entourées de ces frontières hermétiques. Alors, avec cette opération, Israël et la Jordanie évitent un massacre à leurs portes de casques blancs à la grande notoriété, mais hors de question pour eux d'accueillir des réfugiés. La Jordanie ne le souhaite plus et Israël maintient sa ferme politique de n'accueillir personne sur son sol. Dans les 3 mois, ces familles syriennes seront réinstallées au Canada, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Officiellement, Israël affirme ne pas être impliqué dans la guerre en Syrie, mais elle y opère régulièrement pour livrer du matériel humanitaire ou plus discrètement des opérations militaires. Comme cette nuit où, d'après les médias syriens et l'OSDH, un raid israélien a été mené sur un site iranien de fabrication de missiles à l'ouest du pays.
Des frappes qui n'ont pas été confirmées ce matin par Israël, mais Tel Aviv vise depuis plusieurs semaines maintenant la présence iranienne en Syrie, s'inquiétant du nombre croissant d'Iraniens de l'autre côté de la frontière. L'Iran, qui pourrait être sanctionné au plus haut niveau par Washington, les États-Unis n'auraient en tout cas pas peur de le faire, disait cette nuit le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie s'adressait à la diaspora iranienne en Californie. Et dans la foulée ce matin, Donald Trump a menacé son homologue iranien Hassan Rouhani dans un tweet rédigé en majuscules. Ne menacez plus jamais les États-Unis où vous allez subir les conséquences telles que peu de personnes en ont subi dans l'histoire, écrit-il. Steve Bannon va poser ses valises en Europe dans une interview accordée au Daily Beast. L'ancien conseiller et stratège de Donald Trump affirme qu'il veut maintenant monter une fondation politique à Bruxelles. L'ultranationaliste, figure de la droite dure américaine, veut ainsi soutenir les mouvements populistes européens. Il musclerait ainsi les idées d'extrême droite en vue des élections européennes au printemps prochain, Marco Voltaire.
L'idée lui serait venue lors du dernier congrès du Front National à Lille. Steve Bannon, invité à prononcer un discours, aurait alors réalisé que les partis d'extrême droite en Europe ne partagent pas assez leurs ressources. Bannon compte donc y remédier avec la création d'une fondation qu'il veut baptiser The Movement, le mouvement qui aurait son QG à Bruxelles et emploierait pour commencer 10 de personnes. The Movement pourra fournir des sondages, des bases de données, du conseil en communication, des messages prêts à l'emploi pour booster directement ou indirectement les candidatures de droite aux élections européennes. Avec The Movement, Steve Bannon compte bientôt passer autant de temps en Europe qu'aux États-Unis. Voilà plusieurs années qu'il tissait sa toile sur le vieux continent. Il a rencontré Marine Le Pen, le Hongrois Viktor Orban, le Britannique Nigel Farage. Et les dernières échéances électorales ponctuées par l'ascension de l'extrême droite en Italie le confortent dans son diagnostic. Si ça marche en Italie, dit-il, cela peut fonctionner partout. Selon lui, le populisme nationaliste de droite va gouverner l'Europe et à ses yeux, les plus vulnérables sont désormais Angela Merkel et Emmanuel Macron.
Un mort et 13 blessés cette nuit à Toronto, dans le quartier grec, lors d'une fusillade. Le tireur a été abattu dans la foulée. La police ne connaît pas encore ses motivations. Je vous en parlais en titre, la 22e conférence internationale sur le sida démarre aujourd'hui à Amsterdam. Pendant une semaine, des chercheurs et des représentants de la société civile vont partager des informations sur les avancées scientifiques. Quelques jours après l'apparition d'un rapport mitigé de l'ONU Sida, il y a davantage de malades sous traitement, mais l'épidémie ne ralentit pas autant qu'il était attendu, Daniel Messager.
Jamais il n'y a eu autant de personnes infectées par le VIH sous traitement, 22 millions. Pour autant, la lutte contre le sida est en plein paradoxe, car on constate un relâchement dans la prévention et un recours au dépistage loin d'être acquis. Les résultats qu'on attendait ne sont donc pas au rendez-vous, constat qui va être fait à Amsterdam. Professeur François Dabis, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida.
En 2016, on a dit qu'il faudrait qu'en 2020, il y ait moins de 500 000 nouvelles infections par an. Aujourd'hui, il en reste encore à peu près 1 800 000. On a dit qu'il faudrait moins de 500 000 décès. C'est encore pratiquement 1 million. Nous stagnons. Il faut vraiment aller vite. Et nous n'allons pas aujourd'hui assez vite dans la lutte mondiale contre le VIH.
Néanmoins, la recherche avance. Les résultats sur ce qu'on appelle la PrEP, prendre un traitement avant un rapport sexuel pour ne pas être contaminé, vont occuper une bonne partie des présentations. On va aussi parler nerf de la guerre, l'argent, qui pourrait manquer, en particulier celui en provenance des États-Unis, François Dabis.
Il manque au minimum 20 à 25% des moyens que l'on pense être nécessaires à l'échelle planétaire. Mais l'année prochaine, on va discuter du plan de financement international pour les 5 années suivantes. Nul doute que dès la conférence d'Amsterdam, ces débats commenceront à avoir lieu.
Et ce sera la France qui organisera cette conférence, certainement très suivie.
Un lundi ensoleillé et des températures en hausse. Voici ce que prévoit Météo France pour ce début de semaine. Un grand soleil donc partout et déjà 21 degrés ce matin à Brest, 24 à Strasbourg, 25 degrés à Lille, Paris, Bordeaux, 26 à Lyon, 29 degrés ce matin à Perpignan et sur la Corse.
Merci Clara Lecoq-Réal. Prochain journal à 9h.